qu'on introduit à présent la deuxième séquence de notre table ronde sur la lutte contre les discriminations dans les collectivités. Ce rendez-vous des élèves de l'INET est animé par moi-même, Zoé Morel et Gabrielle Mélogli. Nous sommes avec nos deux intervenantes, Émilie Jung, chargée de mission lutte contre les discriminations à la ville et au Eurométropole de Strasbourg, et Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Cette deuxième séquence porte sur la lutte contre les discriminations des collectivités territoriales en tant qu'employeurs et notamment du rôle des cadres territoriaux. Puisqu'on est en effet des cadres territoriaux avec des missions d'encadrement, et on a donc toutes et tous un rôle à jouer pour prévenir les discriminations au sein de la collectivité, que ce soit dans notre relation aux agents, lors du recrutement, mais aussi tout au long de leur vie professionnelle. Et donc, Madame Jung, dans ce contexte-là, comment prévenir les discriminations internes dans sa collectivité et promouvoir la diversité ?
Donc c'est vrai que sur les questions de ressources humaines, c'est un des domaines dans lequel on a le plus d'outils de lutte contre les discriminations. Je dis pas non plus qu'on en a énormément, mais c'est quand même un des domaines où la lutte contre les discriminations a été le plus travaillée, donc on peut se saisir d'un certain nombre d'outils. Monsieur Romero a parlé par exemple de la question des CV anonymes juste avant. On a également la loi de 2019 sur la modernisation de la fonction publique qui vient renforcer un certain nombre d'obligations en la matière et dont on peut se saisir. Après, je pense aussi que ces outils, ils sont différents en fonction de la taille des collectivités. C'est vrai que moi, je parle depuis la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, donc on est une collectivité de plus de 8000 agents et ce sera sans doute pas la même chose pour des collectivités de taille plus petite. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que déjà on a fait une démarche d'observation et un audit interne au moment où la mission lutte contre les discriminations a été mise en place. Donc cet audit interne, il est intéressant à double titre. Il est intéressant déjà parce que ça va nous permettre de voir où sont les risques discriminatoires, puisque quand on parle de procédure RH, on est de la partie du recrutement à la relation managériale, au déroulement de carrière, aux promotions, etc. Donc, on englobe quand même tout un certain nombre de processus différents. Donc, ça va déjà nous permettre d'être plus précis sur les outils à mettre en place. Et puis, le deuxième effet important, c'est aussi que ça va nous permettre de nous dire, oui, il y a vraiment un sujet à travailler. Oui, il y a vraiment des questions qui se posent. Et du coup, ça peut sortir du déni et mobiliser les équipes. Donc, il y a déjà eu cet audit interne qu'on a mis en place à l'époque et qui nous a permis de voir notamment des risques sur les questions de l'origine, de la grossesse, de l'âge et des activités syndicales. À partir de là, on a mis en place tout un certain nombre de formations. C'est vrai que le levier de la formation, il est central quand on veut travailler sur la lutte contre les discriminations. Donc là, ça fait une quinzaine d'années qu'on met en place des formations sur la lutte contre les discriminations, que ce soit généraliste ou sur la lutte contre le sexisme, sur les enjeux de handicap. Donc on travaille vraiment en global. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est aujourd'hui encore sur des formations qui sont plus en direction d'agents volontaires, d'agents et d'agentes volontaires. Donc c'est sûr qu'on n'a pas non plus pu former les 8000 agents sur ces questions-là. Donc là-dessus, il y a une marge de progression, il me semble. Mais en tout cas, ce levier formation, il est à mobiliser. Et puis les différentes évaluations, elles montrent bien qu'il y a un enjeu à répéter ces formations et à ne pas être sur un one-shot. On a un autre outil qu'on a mis en place depuis 2022 qui est la cellule d'alerte et d'écoute, puisqu'on a toute la dimension de prévention, mais on a aussi l'importance de pouvoir mettre en place des protocoles pour pouvoir faire des signalements quand il y a des discriminations. Et cette cellule d'alerte et d'écoute, elle est ouverte à toute la question des agissements sexistes, des discriminations et aussi du mal-être au travail. Si je prends les derniers chiffres sur l'année 2025, donc l'année n'est pas encore finie, mais sur les chiffres jusqu'au 30 novembre, on a eu 52 alertes au sein de cette cellule d'alerte et d'écoute et on en a 9 qui concernent la question des discriminations. Donc, c'est quand même un volume important par rapport à l'ensemble des alertes. Et la moitié, c'est sur la question de l'origine. Donc nous, ça va nous permettre de travailler en interne sur comment rétablir l'égalité dans ces situations-là. Je pense aussi qu'un autre outil intéressant, c'est, vous l'avez dit, alors sur l'égalité femmes-hommes, c'est vrai qu'on a plus d'outils contraignants, mais du coup, nous, ça va être d'utiliser le plan d'égalité professionnelle qui est obligatoire et d'injecter dedans un travail sur les discriminations de façon plus globale. Et enfin, on a une réflexion pour intégrer le label égalité-diversité et rentrer dans cette démarche-là, ce qui me semble qui est déjà le cas à Paris.
Voilà, monsieur Romero Michel, si vous voulez rebondir par rapport au dispositif mis en place dans votre collectivité pour ne pas discriminer en interne lors de recrutement tout au long de la vie professionnelle. Vous avez déjà parlé des exemples. Alors, des éboueurs.
Bon, il y a déjà évidemment un kit de recrutement inclusif, mais ce qui a été important, vous l'avez dit, c'est les formations. Avec évidemment cette complexité qu'elles ne peuvent pas toutes être obligatoire, c'est-à-dire suivi par tous les agents, sauf dans certains domaines où on a pu agir d'une manière beaucoup plus efficace, puisque on a créé la police municipale dans le cadre de ce mandat-là. Et la volonté de la maire était que cette police soit vraiment ce qu'on appelle une police inclusive, qui aille vers les gens et qui soit un peu différente de l'image que peut-être, parfois à tort, certains peuvent avoir de la police. Et donc la formation a été la base de tout ça. Une formation initiale qui prenne en compte, évidemment, toutes les questions de lutte contre les discriminations, les questions d'égalité femmes-hommes, de harcèlement, et qui n'était pas forcément faite par le CNFPT ou par d'autres. Bien sûr, ces organismes interviennent, mais sur ces questions-là, la volonté a été, à la fois de mon collègue à la sécurité, on a travaillé ensemble là-dessus, c'était de choisir des associations qui venaient former ces personnels déjà dans leur formation initiale. D'avoir des associations féministes, d'avoir des associations LGBT, des associations trans qui sont venues former, avec parfois d'ailleurs, on a eu l'année dernière à une session, Monsieur De Vetter s'en rappelle peut-être, un gros souci puisque plusieurs futurs policiers municipaux avaient tenu des propos violemment homophobes et transphobes dans une, et donc ça avait été, on avait été confrontés à comment on gère ça, etc., ce qui avait été extrêmement difficile, mais extrêmement aussi intéressant. Et là, c'est une formation obligatoire, mais qui n'est pas un one-shot. C'est-à-dire que ces policières et ces policiers municipaux, ils sont formés, eux, régulièrement. Et là, ils ont des formations qui sont, obligatoires. Autre point pour la formation qui a été aussi très importante, la première chose, quand vous arrivez, nous, on a des mairies d'arrondissement, vous arrivez dans une mairie d'arrondissement. Et il y a un certain nombre, évidemment, de postes d'accueil qui sont importants. Et c'est là aussi où peuvent se passer des discriminations. On a eu des retours, ça arrive régulièrement parce que, voilà, dans une collectivité, autant de personnes, parfois des gens peuvent être racistes et puis aussi peuvent être extrêmement maladroits. Parce que c'est pas seulement parce que des gens ont envie de discriminer, c'est parce qu'ils ne savent pas comment accueillir des personnes. On a eu, par exemple, cet exemple-là en début de mandat avec des accueils de personnes trans qui ont été extrêmement mal vécues par les personnes trans et évidemment par les personnes qui les accueillaient parce qu'elles ne savaient pas comment les accueillir. Et donc, on a là-dessus, évidemment, beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je pense que la formation, elle est importante. Les campagnes internes qu'on fait évidemment régulièrement, les journées, voilà. Et aussi, je le dis quelque part aussi, la formation, même si pour les élus ça peut pas être obligatoire, mais la formation aussi des élus, parce que les élus sont le reflet aussi de la société, et un certain nombre de formations leur sont proposées. On peut pas dire que ceux qui soient les plus nombreux à y aller, mais en tout cas c'est important qu'ils soient aussi dans ce processus complètement intégrés, comme ils l'ont été d'ailleurs dans les plans que je disais tout à l'heure. Tout le monde est associé, les syndicats, etc. Et bien sûr, les groupes politiques. Par exemple, le plan de lutte contre le racisme qu'on vient de sortir récemment, il a été, tous les groupes politiques ont été associés à et d'ailleurs, des propositions ont été prises de chacun de ces groupes.
Merci. Madame Jung, pour vous, c'est quoi les principaux des collectivités territoriales pour en faire des employeurs exemplaires et comment vous les dépassez ?
Je pense que le premier frein, c'est sans doute cette illusion d'égalité. C'est un peu de se dire, finalement, les discriminations, ça concerne l'entreprise privée, ça ne concerne pas nous en tant que collectivité, parce qu'il y a les concours, parce qu'on est dans le service public et parce qu'on croit à l'égalité. Donc, naturellement, on va avoir des pratiques égalitaires. Or, du coup, on voit que c'est pas le cas. On voit que donc, dans les rapports du défenseur des droits, dans les réclamations qui sont déposées, on en a 25% qui concernent l'emploi public et 20% qui concernent, pardon, 25% l'emploi privé et 20% l'emploi public. Donc on a quand même un certain nombre de recrutements, de discrimination dans l'emploi public aussi. Mais c'est vrai qu'on a cette idée que ça ne concerne pas le public. Et donc je pense que le premier frein à lever, c'est de se dire oui, on est aussi concerné. D'accord, il y a les concours, mais il y a beaucoup de recrutements qui se font aujourd'hui par voie contractuelle et il n'y a pas que l'entrée dans l'emploi, mais il y a aussi le déroulement de carrière, il y a aussi la relation managériale, etc. Et en plus de se dire c'est bon, nous on est égalitaire, on n'a pas de soucis, ça veut dire qu'on ne va pas travailler ces questions-là et donc quelque part on va se retrouver peut-être dans des situations encore pires que dans le privé. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier frein à lever. Encore une fois, c'est pas de se dire oui, on est très raciste ou on est très homophobe ou je ne sais quoi. Je pense que la majorité des personnes essayent de bien faire leur travail, mais c'est-à-dire que si on ne s'interroge pas sur ces pratiques, on va discriminer. Naturellement, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'on est aussi le reflet de la société et on est empreint des représentations et des stéréotypes de cette société. Après, on a d'autres freins qui sont plus classiques. Hein. Il y a le fait d'être réticent à aborder ce sujet-là, de le voir comme très négatif, de se dire qu'on va tout de suite être sur la question de est-ce que ça veut dire qu'on critique les collègues ou pas. Enfin, il y a vraiment une forme de tabou autour de cette question des discriminations qui me semble importante à lever. Et puis, il y a le manque de culture partagée. C'est pour ça qu'on insiste autant sur cette question des formations. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore dans notre culture d'administration et c'est souvent vu comme une mission seulement de spécialiste ou seulement d'un élu, etc., alors qu'il y a une importance à pouvoir le voir de façon beaucoup plus partagée. Donc, la manière de dépasser ces freins, bah, il me semble que c'est déjà tous les dispositifs qu'on a évoqués qui concourent à dépasser ces freins. Il y a la question du positionnement politique qui a été cité dans la première séquence, mais j'y reviens puisque c'est aussi le thème de ces ETS. C'est vrai que nous, ce qu'on a pu faire à la ville de Strasbourg, on a pu le faire parce que depuis 2008, il y a eu un portage politique avec deux missions qui ont été créées, une sur l'égalité femmes-hommes et une sur la lutte contre les discriminations, avec cette volonté d'avoir vraiment deux missions pour pouvoir embrasser la globalité des sujets. On a deux adjointes sur chacun de ces sujets-là et donc on a ce portage politique vraiment dans le temps, on a une délibération cadre, etc. Donc c'est ça qui va permettre de lever un peu tous ces freins institutionnels. Et je pense qu'il y a également le fait de prendre conscience que ces discriminations, elles sont systémiques. L'exemple des éboueurs que vous donniez, elle est très intéressante parce qu'on voit que ce n'est pas une problématique à un moment donné qui concerne une personne, mais on voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus global. Et donc ça, c'est aussi une manière de pouvoir lever le frein, c'est d'accepter qu'on est tous responsables et quelque part producteurs de ces discriminations. Et si on en prend tous la responsabilité, ben on arrivera à travailler pour que ça ne se produise pas.
Merci Madame Jung. Nous arrivons à la fin de la deuxième séquence de notre table ronde.